nos lieux enchantés, une histoire mariant causerie, chansons et patrimoine.
Réalisé par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la communauté de communes du Pays Mornantais.
J'ai connu la chapelle, j'avais 18 ans. J'ai plus voulu la quitter. La chapelle, c'est notre voisine.
C'est pratiquement Saint-Vincent qui alimente en eau toute la plaine. La colline de Saint-Vincent, c'est un véritable château d'eau.
La symbolique du tilleul, c'est l'amitié. Les gens viennent s'installer là, puis ils imaginent, ils regardent au loin.
Les mineurs amenaient du charbon et venaient chercher du vin. Puis les mines ont fermé, donc les vignes ont disparu, il n'y avait plus de débouchés, sans jeu de mots.
C'est vrai que quand on voit quelqu'un pour la première fois, avant de lui parler, ben on le regarde. Et à la chapelle, j'aime pas quand on rentre directement. Alors on prend le temps, on fait le tour. Quand on rentre par la petite porte d'ouest, il y a une marche. Alors forcément, on s'incline.
À deux pas de Lyon, le Pays Mornantais. Un plateau, des coteaux, un pays dans le pays.
Je suis Romain Lateltin, enfant du pays.
Et moi, je suis Théophile Hardy, enfant fraîchement adopté. Nous avons une mission. Explorer le pays mornantais, sa culture, son patrimoine, ses visages, ses paysages, pour trouver ce qui relie ces 30 000 âmes.
Nous allons causer avec les gardiens des histoires et légendes, ayant traversé le territoire et les années. Nous allons sillonner le pays pour capter sa vibration et tenter d'écrire des chansons qui raconte son histoire en musique.
Notre cap, le festival itinérant Nos lieux enchantés, qui invitera des artistes à chanter leurs propres chansons et celles du lieu, décor de leur spectacle. Pour vivre notre pays mornantais avec nos cinq sens.
Pour explorer ses couplets, traverser ses ponts et entonner ses refrains en chœur.
Pour en chanter nos lieux.
Bonjour, bonjour. Devant nous, la chapelle Saint-Vincent à Saint-Laurent-d'Agny. Voici le lieu qui est certainement à l'origine du projet Nos lieux enchantés. Une petite chapelle perchée sur un éperon de granit, des pierres, sortes de dolmens ou menhirs, plantées sous un immense et magnifique tilleul. Et dans notre dos, le point culminant de l'endroit, avec sa table d'orientation, offrant une vue sublime à 360 degrés sur tout le pays mornantais. Le vent semble déjà nous souffler les légendes qui ont habité cet endroit. Mais nous comptons sur Annie et Michel Bonnard qui nous attendent sous le tilleul pour nous aider à trier le faux du vrai et percer les secrets de ce lieu décidément enchanté. Annie, Michel, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Honneur aux dames, Annie.
Oui, bon, donc je m'appelle Annie Bonnard. J'ai connu la chapelle, j'avais 18 ans. J'ai plus voulu la quitter. Et en 75... Michel, c'était son rêve aussi. On a réalisé notre rêve. La chapelle, c'est notre voisine. Puis, peu après, on était en 75, peu après, la municipalité nous a demandé si on voulait bien avoir les clés pour accueillir les gens. Oh, quel honneur! Et depuis, voilà, on est là, on accueille. Et c'est tellement un grand plaisir.
Bon, je pense que nous avons les bons interlocuteurs. Michel, maintenant, à toi.
Eh bien, moi, donc, je m'appelle Michel Bonnard. Je suis né à Saint-Laurent-d'Agny, donc au village, en 1944, pendant la guerre. Et en 1975, j'ai immigré, je suis monté à Saint-Vincent. J'ai réalisé un vieux rêve, comme disait Annie. En fait, c'est un peu un retour aux origines, puisque toute la famille de ma mère est originaire de Saint-Vincent et appartenait à une très vieille famille, les Rambaud. Voilà, donc depuis, avec Annie, bon, moi, je suis retraité, elle aussi d'ailleurs. On s'occupe de faire visiter la chapelle, d'accueillir les gens, éventuellement de participer un peu aux organisations qui s'y passent. Et bien sûr, nous faisons beaucoup de recherches. Nous avons sillonné toute la France pour approfondir l'art roman, même l'étranger d'ailleurs. Et voilà, donc on essaye de se perfectionner, d'en apprendre de plus en plus au fil du temps.
Pour commencer, est-ce que vous savez d'où vient le nom de Saint-Laurent-d'Agny ?
Saint-Laurent-d'Agny, tout simplement le nom du saint, Saint Laurent, qui est le saint patron de la paroisse. Il y a un deuxième saint patron d'ailleurs qui s'appelle Saint Pierre. Par contre, le terme Annie n'est pas très clair. Certains disent que ça vient de Dénien, d'Aninus, c'est orthographié comme ça dans les vieilles chartes, mais on n'a pas de précision vraiment, vraiment fiable, on va dire. Voilà, donc des terminales Annie, on en trouve aussi à Montagny, Chassagny, etc. Est-ce que c'est la même chose? Je ne pense pas, puisque Saint-Laurent s'appelait Dénien, d'Aninus, etc. C'est peut-être l'origine d'un nom romain, d'Aninus, un romain qui aurait vécu ici à l'époque romaine.
Et la chapelle Saint-Vincent, d'où vient ce patronyme?
Saint-Vincent, donc c'est le patron des vignerons, comme chacun doit le savoir. Donc comme il y avait beaucoup de vignes autrefois sur Saint-Laurent-d'Annie, beaucoup de vignobles, on faisait un vin qui n'était pas très fort, c'était pas un grand cru, et ce vin était vendu dans la Loire aux mineurs. Il était toléré parce qu'il n'était pas très fort justement, pas très alcoolisé. Donc les mineurs amenaient du charbon et venaient chercher du vin. Puis les mines ont fermé, donc les vignes ont disparu, il n'y avait plus de débouchés, sans jeu de mots. Et à partir de là, donc, il subsiste encore quelques vignes pour une appellation contrôlée, les Coteaux du Lyonnais, mais la surface exploitée n'est plus du tout la même.
Cette série de causeries nous a entre autres appris que le vin est un véritable fil rouge dans tout le pays mornantais. Mais il semble qu'à Saint-Laurent-d'Annie, la tradition soit immémoriable. Avez-vous quelques infos sur les fouilles de Goiffeux de 2009 à 2011?
Alors Goiffeux, j'ai un peu de difficulté à en parler parce que je n'ai pas été partie prenante quand j'ai suivi ça un peu de loin. Tout ce que je sais, c'est qu'on a découvert une ferme, enfin on a mis au jour une ferme gallo-romaine qui existait donc depuis avant Jésus-Christ, en fait, je crois 50 ans avant, quelque chose comme ça, avant Lyon même, avant Luc Dunhomme. Et c'était le chef-lieu de l'Ager Gophasiensis. C'est une subdivision romaine qui correspondait en gros à notre canton actuel. Alors on y cultivait de la vigne, d'après ce qu'ils ont découvert, puisqu'ils ont trouvé des pressoirs, des cuviers, etc., qui servait donc pour la vigne, et c'est un vignoble qui était cultivé à l'italienne sur des grandes perches qui faisaient plus de 2 mètres, enfin j'ai pas les dimensions exactes.
Petite précision, on aime bien savoir aussi, comment on appelle les habitants de Saint-Laurent-d'Annie?
Alors les habitants de Saint-Laurent-d'Annie, donc le terme officiel c'est les Laurent-Danniens. Par contre, ils ont des sobriquets, comme un peu tous les habitants des villages avoisinants, et à Saint-Laurent on les appelle les Fèges. Alors il y a 2 explications. Certains vous diront que Fège correspond à la poix, c'est-à-dire la colle, que les cordonniers, qui étaient très nombreux à Saint-Laurent-d'Annie, utilisaient autrefois pour leurs chaussures. Je suis un peu sceptique. Et une deuxième explication, Fège, qui en patois voudrait dire foie, correspond au fait qu'à l'époque, et peut-être encore maintenant, les habitants de Saint-Laurent buvaient beaucoup d'eau de vie. Ils buvaient la blanche, l'agneau, on l'appelait comme ça à l'époque. Et ça leur fatiguait un peu le foie, et ça leur donnait un très mauvais caractère.
Moi, j'aime bien cette version.
Ah oui, je le revendique.
Et combien d'habitants à Saint-Laurent-d'Annie?
Alors actuellement, il doit y en avoir 2200 environ. Mais en 1960, je me souviens, on était un peu plus de 600, c'est tout.
D'accord, d'accord. Et alors, je rebondis quand même sur la partie beaucoup de cordonniers, parce qu'on a appris là, durant nos différentes causeries, qu'à Soucy-en-Jarret notamment, même à Mornant, il y avait beaucoup de veloutiers.
Exact.
Et donc, Saint-Laurent-d'Annie, c'était plutôt les cordonniers, c'est ça?
Il y avait les deux. Vous aviez les cordonniers, qui étaient très nombreux, effectivement, c'était connu. Et vous aviez également des veloutiers, des canuts, qui étaient sur la commune. Mais alors les canuts, ce n'étaient pas des paysans qui faisaient ça pour arrondir leur fin de mois, on va dire. C'était carrément des ouvriers de la soie. Ils avaient des métiers à tisser chez eux, et souvent avec leur épouse, ils travaillaient donc le velours de soie, particulièrement ici. Et ces veloutiers donc, avaient des petites maisons implantées sur des parcelles qui faisaient environ, enfin qui faisaient 1200 à 1300 mètres carrés, et qu'on appelait des bicherets. Bicheret, ça correspond à la surface qu'on peut ensemencer avec un bichet, c'est-à-dire un tonneau qui contient la semence. Alors ils vivaient en autarcie, ils faisaient leurs légumes, ils avaient quelques volailles, voire un cochon, et souvent une vigne pour faire leur vin. Et ces petites parcelles de canuts ont fait le bonheur des agents immobiliers par la suite. Elles sont très recherchées.
Et est-ce qu'il y avait ces fameuses pièces très hautes, justement, pour les métiers à tisser aussi, hélas ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, les métiers étaient installés dans des pièces assez hautes. Il y en a d'ailleurs sur Saint-Vincent, on peut en voir encore. C'est une particularité.
Dans quelles années, ça, cette période ?
Bon, ça a dû commencer fin 19e, je ne veux pas m'avancer trop, mais fin 19e. Ensuite, il y a une usine de velours qui s'est implantée à Saint-Laurent, à l'emplacement, au lieu dit la bâtie, à l'emplacement de la Sicolie actuelle. Mais cette usine n'a pas tenu très longtemps.
Et pour revenir sur la cordonnerie, qu'est-ce qui pouvait faire qu'ici, on avait cette particularité ?
Un savoir-faire, j'imagine, parce qu'il n'y avait rien de particulier pour le cuir. Et souvent, ils faisaient des chaussures orthopédiques. Malheureusement, c'est la guerre de 14 qui les a aussi un peu lancées, qui leur a permis de continuer, parce qu'il y avait pas mal d'handicapés. Et ils envoyaient leurs chaussures, enfin ce qu'ils fabriquaient, ils l'envoyaient par l'intermédiaire du petit train qui passait en bas, le train qui allait de Mornant à Fourvière.
Oui, on en a parlé, notamment de ce train qui passait aussi par Soucieux, notamment.
Voilà, Orléans, mais pas tout à fait dans Orléans, il passait un peu à côté. Et en fait, une petite anecdote, il est venu à Saint-Laurent-d'Agny parce que le maire de l'époque, qui était aussi député, je crois, avait exigé que le train passe par Saint-Laurent, alors qu'on aurait pu passer dans la plaine.
Le pouvoir du politique, déjà à l'époque. C'est bon ça. Alors, évidemment, dans le pays mornantais, on a quand même un vestige qui est extraordinaire, qui est l'aqueduc d'Ugier. Est-ce que il y a une particularité à Saint-Laurent-d'Agny sur le passage de l'aqueduc ?
Sur Saint-Laurent, l'aqueduc est pratiquement enterré sur toute la traversée.
Il est encore présent quand même dessous,
je dirais. Il est encore présent, bien sûr. On trouve des traces, on trouve des vestiges. Et il y a un siphon qui se trouve, c'est sur Saint-Laurent encore, en descendant sur Mornant, au lieu dit le chemin du loup. Un regard qui a été rénové par des étudiants étrangers il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques années quand même.
D'accord. On est ici, on est hyper bien installé, c'est assez magique, hein, le bruit des abeilles dans ce tilleul là, on est dessous, on est vraiment... Faut venir, venez découvrir ce lieu, et vous comprendrez. Alors maintenant, on va partir à la découverte de cette chapelle et de ses environs. L'idéal est peut-être de partir de sa table d'orientation et son panorama à 360 degrés. Pouvez-vous nous éclairer sur son environnement géographique ?
Bien comme tu viens de le dire, on a une vue à 360 degrés pratiquement, et par temps clair, on peut voir jusqu'à 7 départements. Oui, les comtés, le Rhône, les Savoies, l'Isère, la Drôme, la Loire, bien sûr. Et on voit les points culminants pratiquement aussi de tous les départements. On voit donc Saint-André-la-Côte. De l'autre côté, on voit le Mont-Saint-Rigaud qui est le point culminant du département du Rhône. À gauche, c'est la Loire, le Pilat, point culminant de la Loire. Et bien sûr, le Mont-Blanc en face.
C'est magique. Hein.
Pour avoir notre regard un peu plus près, l'environnement tout proche, on est à côté de vergers. Qu'est-ce qu'on peut dire de typique ? Il y a un bois pas loin, je sais qu'il y a des rivières, des ruisseaux. Est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu, si on fait quelques pas vers le large, qu'est-ce qui nous attend ?
Ce qui nous attend, c'est ce qui a succédé aux vignes, comme je vous le disais. Donc ce sont des vergers. On a des champs de cerisiers assez grands, assez impressionnants. Des fraises, beaucoup de fruits rouges. Enfin, un peu toutes sortes de fruits, des pommes également. Et en ce qui concerne l'eau, ici sur Saint-Vincent, la colline de Saint-Vincent, c'est un véritable château d'eau. Le lieu dit à côté, au sud, s'appelle d'ailleurs les Sources. C'est pratiquement Saint-Vincent qui alimente en eau toute la plaine. Mais au niveau culture, donc les fruits, il y a quelques... Oui, c'est des fruits.
Il y a des cerises.
Il y a cette table d'orientation qui est là-bas. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot de cette table d'orientation ?
Elle a été installée il n'y a pas très longtemps, après que l'endroit a été remblayé. Autrefois, il y avait aussi quelques rochers, mais beaucoup plus plats. Quand j'étais gamin, on venait voir les feux d'artifice ici. Il y avait beaucoup de genêts, c'était plat. Et puis cette table d'orientation a été construite après qu'un lotissement a été fait et ils ont déversé la terre ici pour éviter de l'emmener trop loin. Donc ça faisait une petite colline et la municipalité a installé une table d'orientation à laquelle j'ai participé d'ailleurs. Elle est en pierre de Volvic. J'ai peut-être fait quelques erreurs dans l'orientation parce qu'il y a certains villages qui protestent en disant que c'est pas tout à fait ça, mais ça c'est un peu classique.
La fameuse guerre des clochers du pays Marnantais, dont on rigole de temps en temps. Et puis, ce qui est génial dans cette table d'orientation, à chaque fois qu'on vient ici à Chapelle-Saint-Vincent, c'était le cas ce matin, on croise des gens à vélo, des promeneurs, et il y a toujours quelqu'un sur cette table. Moi, à chaque fois que je viens, il y a toujours quelqu'un sur cette table. Donc, elle est vraiment utilisée, je crois.
Elle est très utilisée, oui, c'est vrai. Et disons que les gens qui viennent ici, c'est très hétérogène. On voit tout, on voit des cavaliers, on voit des marcheurs, des cyclistes. Des motards, ça en aime un peu moins. Et puis des gens qui viennent simplement profiter du lieu, viennent vers le tilleul, c'est-à-dire les bonnes ondes. Ils vont vers la chapelle, bien sûr, table d'orientation. Ils regardent un peu où ils sont, ils essayent de se positionner.
Alors maintenant, nous allons descendre vers la chapelle, en imaginant qu'on parte de cette table d'orientation. Et on tombe, tout près du tilleul, sur d'étranges pierres levées, plantées juste à côté du tilleul. Elles ont certainement une histoire, on sent ça, voire même une légende, des légendes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Des légendes, je ne sais pas. Donc, oui, effectivement, on voit des pierres levées, ce qui nous indique que ce lieu est un lieu de culte très ancien, qui remonte au néolithique. Vous avez des pierres donc au sud de la chapelle, au sud, pardon, et à l'ouest. Alors, on peut imaginer, mais c'est que de l'imagination, qu'il y a eu peut-être des sacrifices, en tout cas qu'il y avait des cultes ici, parce qu'on voit des traces sur les pierres, elles sont orientées d'une façon bien particulière, et certains géobiologues sont en train d'étudier tout ça et de faire des relevés, de voir la correspondance par exemple entre les pierres de Saint-Vincent et celles de Mornant, du Luet notamment et autres.
C'est intéressant parce que la géobiologie c'est quelque chose d'un petit peu irrationnel, mais on ressent tellement de choses ici qu'on est content de vous avoir face à nous pour essayer de tirer le faux du vrai.
Alors, Annie, tout à l'heure, tu m'as parlé du tilleul. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose de ce tilleul qui est juste magnifique ?
Le tilleul est classé par la Frappna. Il fait partie des 50 arbres remarquables du Rhône, la Frappna.
Et qu'est-ce qu'il a de si particulier pour faire partie des 50 arbres exceptionnels du département ?
Mais peut-être déjà son emplacement, il est entre profane et sacré. Et le tilleul, la symbolique du tilleul, c'est l'amitié. Et c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui viennent regarder, il y a un creux. Les gens viennent s'installer là, puis ils imaginent, ils regardent au loin.
Bah, je confirme, hein, parce qu'il est très impressionnant. Vous savez à peu près de quand il date ?
Non, on n'a aucune idée. Moi, je lui donnerais dans les 200 ans.
D'accord.
D'après les cartes postales qu'on voit, il existait, mais il était beaucoup plus petit. Donc, carte postale, ça veut dire autour de 1900.
Mais il y a toujours du monde ici, autour.
Je confirme, il y a toujours du monde. Et je crois que c'est votre fille qui a fait...
Oui, c'est Isabelle qui l'a fait classer par la France.
Une histoire de famille, hein, chez les Bonnards.
Est-ce qu'il est en bonne santé ? Est-ce que vous savez
apparemment, oui, mais il a beaucoup souffert de la sécheresse.
Oui.
Donc la mairie est en train de s'en occuper, a déjà visualisé ce qu'il fallait faire. Quoi.
On signale chaque fois qu'on voit quelque chose.
Alors, maintenant qu'on a parlé un peu des alentours là, de la chapelle, des pierres et du tilleul, dirigeons-nous maintenant vers la chapelle, hein, vraiment vers la terrasse et son banc de pierre, hein, puis sur la porte d'entrée. Alors j'imagine que vous avez plein de choses à nous raconter sur la chapelle, c'est le moment d'en parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de remarquable sur cette chapelle, son histoire ? Voilà, lâchez-vous.
Alors c'est assez long, on va dire. Si on prend toute la chronologie, on va être obligé de remonter au néolithique, où on était tout à l'heure. Donc après le néolithique, les hommes préhistoriques, donc, des Celtes ont occupé le lieu. C'était les tribus ségusiaves qui occupaient le lieu. Et qui se sont installés ici avec bien sûr les druides et tout le culte celte. Alors on trouve quelques vestiges, il y a des croix celtiques sur le clocher de la chapelle, enfin des croix dites celtiques, ça peut être également des rouelles gauloises, voire la Jérusalem céleste. Enfin ça atteste quand même d'une occupation de tribus païennes avant les chrétiens. Ensuite on a les romains, on a vu la ferme de Goiffieux qui s'est installée ici, à la place des Gaulois. Et après les Romains, on arrive donc à Charlemagne. Ce sont les chrétiens qui viennent ici. Et la chapelle est citée dans le cartulaire de Savigny dès le 9e siècle. Enfin, pas la chapelle, pardon, excusez-moi, puisqu'elle n'était pas construite. Non, c'est la paroisse qui est citée. pour des donations, etc., le lieu de Daninus est déjà cité. Et au XIe siècle, donc, il y avait peut-être une chapelle carolingienne auparavant, mais on n'a aucune preuve. Et au XIe siècle, cette chapelle donc, romane est construite. En fait, c'était l'église paroissiale de la paroisse de Saint-Vincent d'Agny. Donc, elle a tout d'une église, et le cimetière est devant. On voit le banc.
La terrasse, en fait, qui est devant...
La terrasse,
devant
en fait, c'est un cimetière. Et il y a encore des sépultures, il y a environ encore 200 sépultures ici, qu'on ne remarque pas, on les voit simplement. Enfin, on le sait quand on creuse, quand on trouve des ossements, c'est tout. Et on voit certaines caractéristiques aussi assez typiques du roman vernien, notamment. Parce que c'est du roman primitif très ancien. Donc, elle a été construite au XIe siècle. Et au XIIIe siècle, le village de Saint-Laurent-d'Agny a été construit. Une église a été construite aussi. Et Saint-Vincent est devenu paroisse annexe. Après l'installation donc, de Saint-Laurent, il y a eu un épisode assez dramatique qui s'est produit dans cette chapelle.
Après le traité de Brétigny, donc pendant la guerre de Cent Ans, les armées anglaises et françaises avaient embauché, engagé des mercenaires. Et pendant le traité de Brétigny, ces mercenaires avaient l'habitude de lutter. Ils ont continué à lutter, mais à leur profit. Alors ils avaient formé des bandes qu'on appelait les grandes compagnies, les routiers. Ici, ceux qui sont venus, ce sont les tarvenus. Alors, c'est vrai qu'il faut imaginer un peu l'ambiance qui régnait ici pendant la guerre de Cent Ans. Une guerre qui dure 100 ans. Il y avait des... Il y a eu des années de pluie pluvieuses, très pluvieuses successives. Donc, il n'y avait plus de culture. Les gens n'avaient rien à manger. Il y avait une très grande famine. La guerre, la famine, et en plus, la peste noire. Tout y était. Et alors, quand les tarvenus, après le traité de Brétigny, quand les tarvenus sont venus à Saint-Vincent, les gens ont eu vraiment très très peur. Ils ont quitté leur maison et sont venus se réfugier à l'intérieur de la chapelle. Et là, la chapelle, les tarvenus ont réussi à rentrer et ils ont pillé, souillé, violé. Voilà, c'était leur habitude. Ils allaient partout. Le pape même en avait très peur. Et c'est ce qu'ils faisaient partout. Et après ça, ils ont mis le feu. On ne peut plus redire la messe. Il y a eu quelques transformations et le pape a ordonné un acte qui est rare, qui s'appelle la réconciliation. Alors cet acte était adressé à l'évêque de Lyon, mais l'évêque de Lyon était au loin, donc il a demandé au curé de Saint-Genis-Laval de venir réconcilier la chapelle pour la redonner au culte. Alors il est venu et il a en même temps réconcilié Chaussan. À l'église de Chaussan, il y a eu les tarvenus après Saint-Vincent sont allés à Chaussan, ils ont fait la même chose. Et à Chaussan, ils ont aussi profané le cimetière. Donc voilà, c'est un acte qui est rare. Il est à la Bibliothèque nationale à Paris. Il y a une copie, une traduction à l'intérieur de la chapelle. Ça s'est passé en 1365.
Mais après cet épisode tragique, donc... Ça a été un peu le calme plat, bien sûr. La population avait diminué, on l'imagine. Et on arrive enfin à la Révolution. Donc à la Révolution, la chapelle est mise en vente comme bien national et elle est rachetée par 27 paroissiens qui ont monté une affaire assez scabreuse. Il y a un roman à ce sujet, enfin bon, il y a pas mal d'écrits. Donc les 27 paroissiens ont racheté la chapelle qui a pu être rendue au culte sous certaines conditions et qui n'a pas eu de dégradation, qui n'a pas été transformée en écurie ou en grange.
Pourquoi scabreuse ? On a l'impression d'un espèce de rachat, d'un financement participatif comme on le fait aujourd'hui.
Non, parce que je crois qu'ils avaient pris un prête-nom pour racheter en fait et après ils ont racheté au prête-nom, quoi, en sous-main en quelque sorte. Enfin, je résume.
Sorte d'holding de l'ancien temps.
Bon, après ça, donc, elle est rendue au culte, mais enfin, on n'y dit pratiquement plus qu'une messe pour la Saint-Vincent, bien sûr. Et il y a quelques célébrations, mariages, enterrements, puisqu'il y a le cimetière. Et puis, on arrive donc en 1945, on va assez vite là, elle était un peu dans... Pendant toute cette période entre la Révolution et la Deuxième Guerre, elle est un peu abandonnée. On voyait des bêtes qui paissaient ici. Si vous voyez les vieilles cartes postales, vous verrez que c'était, comment dire, une friche en quelque sorte, et la chapelle était pas mal endommagée. En 1945, elle est classée monument historique et restaurée en 1956 grâce au sénateur de Lampe qui habitait ici et qui a pas mal œuvré pour le maintien de cette église. Voilà, donc elle a été classée et elle a été restaurée, donc je vous le disais, en 1956. La porte ouest était fermée, murée, elle a été réouverte à cette époque et il y a eu pas mal de modifications. Tout l'intérieur a été modifié, il y avait des enduits en plâtre, il y avait un autel baroque qui cachait la fenêtre est. Et puis c'était un vrai carfanum, quoi. Il y avait tout ce qu'on voulait, des candélabres, des tableaux, des statues. Beaucoup de statues ont disparu d'ailleurs.
La porte sud qui donne sur la terrasse n'existait pas à l'époque ? Elle existait déjà ? Qui donne sur le cimetière, pardon, puisque à l'époque...
Certainement, oui. C'est peut-être même la porte d'origine. Enfin, apparemment, elles sont toutes les deux de la même époque. Mais ça, il y en a qui vous diront que c'est une porte qui a été faite après, que celle-ci a été murée à cause du vent du nord ou je sais trop quoi. Enfin bon. Par contre, il y avait une tribune à l'intérieur, ça c'est mon hypothèse, une tribune en bois, qui était juste derrière la porte et peut-être que ça gênait l'ouverture. Et c'est peut-être au moment de la construction de la tribune... qu'ils ont eu l'idée de fermer la porte.
J'ai une petite question sur cette porte. Côté, donc là, on est côté ouest, c'est ça ?
Oui.
Vers le tilleul.
Mmh.
On voit qu'elle est, elle n'est pas dans l'axe.
Elle n'est pas dans l'axe.
Là, je vais titiller
elle
un petit peu.
Elle n'est pas sous l'oculus.
Elle n'est pas sous l'oculus. Et on a pu lire qu'il y aurait peut-être un lien au fait qu'elle serait dans l'axe des pierres et du site néolithique. Est-ce que vous pensez que c'est une hypothèse crédible ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? Et ce qui ferait le lien, est-ce que tu nous disais, Annie, sur ce tilleul qui est un peu entre les deux, ça nous intéresse, entre le profane et le religieux et le sacré, il y a quelque chose qui nous intéresse là-dedans, on aimerait bien que vous puissiez pousser avant de continuer sur cette chapelle.
On ne sait pas pourquoi elle est décentrée.
Il n'y a pas d'hypothèse ?
Non, il y a des hypothèses géobiologiques. Les géobiologues vont vous dire qu'elle est décentrée pour éviter un réseau énergétique qui passe au centre de la chapelle, qui la coupe en deux d'ailleurs, en deux parties. Donc les constructeurs ont mis cette porte sur le côté pour éviter qu'on se décharge en énergie quand on entre dans la chapelle, qu'on se recharge et qu'on ressorte ensuite. Enfin tout ça, il faut le visualiser à l'intérieur, c'est beaucoup plus parlant. Mais ce sont des théories géobiologiques, il n'y a rien de rationnel là-dedans, on va dire.
Il n'y a rien d'écrit.
Chacun a son ressenti. Et on voit d'ailleurs des théories un peu différentes.
Il n'y a rien d'écrit par rapport à ça, c'est difficile de répondre.
Mais on peut aussi évoquer nos ressentis, nos sensations, nos émotions. C'est ce que tu faisais par rapport au tilleul. Qu'est-ce que tu ressens ? Dis-le-nous. Tu peux nous, par rapport à cette sensation entre justement, tu disais, le profane et le sacré, ça intéresse ?
Ah, je ne sais pas. Moi, je me sens tellement bien ici que je ne sais pas comment le décrire.
Si c'est un lieu de culte depuis des millénaires, c'est bien qu'il y a quelque chose, qu'il y a des énergies particulières.
En tout cas, le simple fait de dire que tu te sens bien ici résume ton ressenti, ton émotion. Mmh. Ça suffit finalement,
oui,
hein, y a rien d'autre à rajouter. Donc Annie, tu vois, tu décris parfaitement ton ressenti. Michel, on peut reprendre la chronologie ?
Ben, on était arrivé pratiquement au bout, donc, puisqu'on en était à la restauration. Alors maintenant, elle se visite le premier dimanche de chaque mois de Pâques à la Toussaint et éventuellement à la demande, et les jours fériés. Il y a quelques films qui ont été tournés ici, donc notamment un épisode de La vie de Lucie Aubrac. Ils ont tourné sous le tilleul, je ne sais pas pourquoi ils sont venus à Saint-Vincent, mais enfin bon. Il y a eu un épisode de Louis la Brocante. Et qu'est-ce qu'on a eu encore ? Un téléfilm pour FR3, enfin, ils se tiraient des coups de pistolet, là, c'était assez spécial. Disons que le lieu se prête bien pour faire certains films, puisqu'on peut neutraliser la route facilement. Il n'y a pas de pollution visuelle par rapport aux poteaux électriques, etc. Donc le site est assez propice pour certains films. Donc à l'intérieur, eh bien, on retrouve bien sûr ce qu'on visualisait à l'extérieur. On voit trois volumes principaux qui correspondent à la nef, au transept et à l'abside. Elle est parfaitement orientée à l'est et on trouve aussi une voûte en berceau plein cintre qui est la plus ancienne du département du Rhône. Et un transept non saillant, puisqu'on est dans un plan basilical, transept non saillant surmonté par une coupole, ce qui est assez exceptionnel pour une petite église de campagne.
Sur le côté nord, hein, c'est ça là?
En allant vers l'est.
Ah non, sur le côté de l'est, ok.
À l'intérieur.
Ok.
On passe le transept, on remarque cette coupole, une coupole sur trompe. Dans les quatre angles, il y a des trompes, et ces trompes sont soulignées par des petites tablettes en pierre. On ne les voit pas, je vous explique. Ça, c'est assez typique du roman auvergnat. Donc on suppose qu'il y a eu des bâtisseurs qui étaient passés par l'Auvergne avant de venir à Saint-Vincent. Et enfin, on arrive à l'abside, abside en cul de four, avec la fenêtre parfaitement orientée. Les vitraux sont assez intéressants aussi, datent de la restauration, mais ils sont colorés et je trouve qu'ils animent assez bien l'église.
Annie, est-ce que tu veux rajouter des choses?
Oui, c'est vrai que quand on a des visiteurs, on aime bien, avant de les faire entrer, on aime bien en faire le tour. C'est vrai que quand on voit quelqu'un pour la première fois, avant de lui parler, ben on le regarde. Et à la chapelle, j'aime pas quand on rentre directement. Alors on prend le temps, on fait le tour, on prend le temps. Puis en plus, il n'y a pas de narthex.
Tu peux nous dire ce que c'est? Je ne sais pas.
Le narthex, c'est la partie qui est avant d'entrer dans l'église.
Okay.
Et donc là, on se
le
prépare.
Sas, comme un sas, un
comme
peu
un
d'entrée.
Sas.
C'est la partie des catéchumènes qui n'avaient pas le droit d'entrer parce qu'ils n'étaient pas baptisés.
Voilà. Et là, quand on passe, on se prépare. Et là, on ne peut pas faire ça, il n'y a pas de narthex. Alors, on prépare les gens autrement. On ne rentre pas tout de suite. Parce qu'une église, ce n'est pas, c'est pas que des pierres, des murs. Une église, c'est un espace pour vivre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la rencontre avec Dieu. Et l'homme n'a pas la même attitude quand il rentre dans une église gothique et quand il rentre dans une église romane. Quand on rentre dans une église gothique, toute l'architecture, tout est fait pour attirer le regard vers le haut. Alors que dans les églises romanes, à Saint-Vincent, quand on rentre par la petite porte d'ouest, il y a une marche. Alors forcément, quand on rentre, on s'incline. On n'a pas du tout la même attitude, on s'intériorise, on n'a pas du tout le même comportement. Et quand on est descendu, qu'est-ce qu'on fait? On est attiré par la lumière de l'est. Parce que l'art gothique, c'est la verticalité, l'art roman, c'est l'horizontalité. C'est pas du tout la même spiritualité. On peut parler d'immanence, de transcendance. Et la volonté de l'art roman, c'est de passer du visible à l'invisible. De passer par la beauté visible pour aller jusqu'à la beauté invisible. Alors pour ça, on va parler de symbolique. Mais le symbole, il ne se voit pas. Le symbole se perçoit. Parce que le symbole ne s'impose pas. Il se propose à travers les formes, à travers les nombres, à travers la lumière, à travers les formes, par exemple. On dit que le rectangle, c'est l'univers de l'homme. Et que tout ce qui est arrondi, je prends des raccourcis un petit peu, tout ce qui est arrondi, c'est l'univers de Dieu. Le cercle fait penser au ciel fait penser à Dieu. Et on cherche la rencontre de Dieu avec l'homme à travers les volumes, donc à travers les formes. Donc au-dessus, il y a la nef qui est tout arrondie. Après, quand on s'avance, on est dans le carré, on a la coupole qui est tout arrondie. Et puis, tout au fond, l'abside, c'est tout arrondi. C'est là que c'est l'endroit le plus important. C'est là que le pain et le vin se transforment en corps et sang du Christ. Quand j'étais petite, on n'avait même pas le droit d'aller là-bas. On n'avait pas le droit d'aller. L'abside, c'était l'endroit du prêtre. C'était trop important.
C'est vraiment magnifique, merci. Alors là, cette sensation que tu décris d'équilibre dans les symboliques, d'équilibre aussi entre l'environnement, la nature aussi, et le bâti, tout ce que on ressent vraiment ce que tu décris. Il y a quelque chose aussi quand on arrive du côté est. Il faut le dire quand même, ça, quand on arrive de Saint-Laurent-d'Agny, il y a une élévation, une verticalité très impressionnante. C'est vrai, hein, quand on arrive par là aussi. Hein.
Oui, c'est pour ça qu'on en fait le tour avec les gens. Et quand on commence par en bas, alors c'est vrai que cette idée de verticalité, on ne la retrouve plus. Et après, quand on est au nord, il y a peu d'ouverture et c'est très beau parce qu'on voit la colline qui épouse le ciel, la lumière et on voit, on devine l'horizontalité là.
Il y a une poésie dans cet endroit. Tu parlais de symbolique. Tous les termes que tu utilises, nous, en tant que créateurs de chansons, on y est particulièrement sensible, de poésie, de mots. Tu vois, on est très sensible à ce que tu nous disais. Plus de l'histoire qu'on découvre, tu vois, mais c'est très beau pour nous d'avoir toutes ces images, ces formes, ces ressentis, c'est symbolique.
J'ajoute qu'elle est bâtie, enfin c'est un peu plus prosaïque, d'après les règles du nombre d'or, c'est-à-dire qu'elle a des proportions parfaites et une harmonie qui fait qu'on s'y trouve bien.
Ça c'est aussi des choses qui sont un petit peu subtiles, hein. C'est difficile de savoir pourquoi on se sent bien. Mais il y a quand même certaines règles, c'est vrai que...
Qui nous manipulent en quelque sorte.
Ouais, d'une certaine manière, pour notre bien.
C'est intéressant de parler du nombre d'heures parce que c'est vraiment un chiffre qu'on retrouve très très souvent à la fois dans la nature et dans l'architecture ancienne.
Même moderne.
Oui, c'est un chiffre passionnant. Je sais plus, je crois que c'est
1,618, voilà. C'est la racine carrée de 5 plus 1 sur 2.
Merci Michel, tu as été mathématicien.
Non, pas du tout, on ne parlait pas.
Mais je vous invite à découvrir des infos sur le nombre d'heures, c'est vraiment passionnant.
Oui, c'est passionnant, ouais, c'est vrai. On retrouve dans les escargots, les gammes de musique, etc. Enfin, dans un tas de choses. On continue pour l'intérieur, peut-être, en parlant des statues, non, c'est bon.
Alors, donc, il y a plusieurs statues. Quand on rentre, il y a d'abord la statue de Saint-Vincent, qui est vraiment une modeste statue. Elle est très abîmée. Elle est du XVIIe et c'est une statue reliquaire. Ensuite, vous avez la statue de la Vierge, qui est du XVe, qui a été faite par un artiste local et qui est classée. Et elle est vraiment très très belle, elle est particulière par la position de l'enfant Jésus, par cette Vierge qui a un sourire énigmatique, qui a l'impression de voir partir son enfant. Elle sait pourquoi ils se séparent et lui est pressé d'accomplir son devoir. Et elle est très belle. C'est très rare de voir la position de l'enfant Jésus comme ça, un enfant Jésus qui s'en va. C'est très rare. Ensuite, vous avez la statue de le Christ, du XVIIe aussi. Et puis, Abdon et Sénène. Alors, souvent, les visiteurs ne connaissent pas Abdon et Sénène. Ce sont deux saints qui sont nés à Cordula, au sud du lac de Van, en Arménie. L'Arménie était occupée par les Perses à ce moment-là. Et donc, ces deux saints, on les retrouve pourtant à Charlie, on les retrouve dans le Pilat. Ce sont les patrons des tonneliers. Et Abdon... Je sais pas, c'est trop long de vous raconter toute l'histoire d'Abdon, non ? Non ? Parce que saint Abdon et Sénène, donc, ils ont été martyrisés à Rome. Et leurs reliques ont été déposées plus tard dans les catacombes pontiennes à Rome. Et puis, on les a oubliées. Et à Arles-sur-Tech, dans les Pyrénées-Orientales, il y avait un monastère dirigé par l'abbé Arnulf. Et là... C'était un petit peu avant l'an 1000, tout allait mal. Les enfants étaient dévorés par les bêtes sauvages, plus rien n'allait. L'abbé avait beau faire prier la population, non, ça ne marchait pas. Alors il a décidé d'aller, avec son mulet, d'aller à Rome chercher quelques reliques. Il arrive à Rome et il prie d'une façon tellement forte que le pape même le remarque. Il dit « Mais qui est ce moine ?» Alors il se présente, il lui explique son cas. Il lui dit « Reposez-vous et puis on verra demain. » Et le lendemain, et l'abbé Arnulf, en songe, il a vu Abdon et Sénène. Alors, il le dit au pape, et il lui dit, prenez des reliques, pas toutes, mais servez-vous. Alors, il va dans les catacombes pontiennes, et dans les catacombes pontiennes, à côté d'Abdon et Sénène, il y avait aussi Saint-Vincent. Et ils étaient séparés par une eau qui était tellement pure, tellement claire, qu'il n'a pas pu s'empêcher de prendre de cette eau-là. Et il a fait faire des tonneaux à double fond, où il a mis l'eau et les reliques, parce que pour traverser avec les reliques, il avait peur de se les faire voler en cours de route. Et tout au long de la route, les miracles se produisaient. Et arrivé à Arles-sur-Tech, les cloches se sont mises à sonner toutes seules. Et l'abbé Arnulf a mis les reliques dans un sarcophage en marbre blanc qui est toujours à Arles-sur-Tech. Et depuis, il y a toujours de l'eau. Et cette eau, les gens viennent la chercher parce que cette eau serait miraculeuse. Et après ça, on ne sait pas pourquoi, Abdon ici, je reviens à Saint-Vincent, il y a une dévotion très particulière. Les jeunes filles qui veulent se marier dans l'année viennent lui piquer les pieds. Alors on leur bande les yeux, on les fait pivoter sur elles-mêmes, on leur donne une épingle et elles doivent trouver le pied du saint. Et le nombre de fois qu'elles ratent le pied, c'est le nombre d'années qui les sépare du mariage. Voilà, Abdon et Sénène. Après ça, c'est vrai qu'il y a plein de petites histoires par rapport à ça, mais bon. Oui, après, Sainte Catherine a été volée. Il y avait Sainte Catherine dans une petite niche et elle a été volée. Alors, c'est curieux de voir qu'à Saint-Vincent, pourquoi il y a cette demande de trouver un mari. Comment tu disais, Michel, en patois, tu savais faire ? Dis-le.
Les filles qui venaient donc piquer les pieds de Saint-Abdon à l'époque, enfin, c'est quand même assez vieux. Disait en patois, Saint Abdon, amène-moi le don.
Voilà.
C'est vrai que le patois était la langue de la Côte Amour, on va dire, à l'époque. Tous les villages parlaient patois. Il y a plein d'anecdotes en patois qui sont intéressantes, notamment sur les fifres. Enfin, si j'ai le temps, je vous en parlerai.
Oui, oui, je vais finir juste après. Non. Donc, on se demande pourquoi ce culte autour de vouloir un mari. Et puis, Sainte Catherine, les filles à 25 ans, elles fêtent les Catherinettes et tout. Alors, voilà. Alors, est-ce que, c'est toujours des questions, on se demande toujours pourquoi, mais c'est vrai que les chrétiens, pour mieux convertir, ont construit leurs églises sur des lieux de culte païens. Alors, est-ce qu'en même temps, ils ont pris les coutumes les cultes par rapport à ça? Est-ce qu'ici, il y avait des choses par rapport à avoir un enfant là, voilà, je sais pas.
Alors Michel, on aime bien aussi poser une petite question pour savoir qu'est-ce qui relie les âmes du pays mornantais. Alors j'aimerais bien que tu me parles justement du patois, des fives, ça pourrait être un super truc.
Le patois c'est un peu dépassé, je pense pas qu'on puisse les relier avec ça maintenant. Mais enfin c'était la langue officielle à l'époque. Et donc, il y a une anecdote sur, justement, on revient sur les sobriquets. Je vous parlais des fèges pour Saint-Laurent d'Agny. Donc, Mormon, c'est les fifres, Chausson, les babous, je crois. Et donc, les fifres, ils en ont fait leurs armoiries à Mormon. Mais il y a plusieurs versions. Enfin, plusieurs versions. On dit qu'ils sont allés à la bataille de Brignais avec les fifres en tête, etc. Hélas, les fifres, à cette époque, à l'époque de la bataille de Brignais, les fifres n'existaient pas. Ils ont été introduits en France par les Suisses plus de 100 ans après. Alors on peut supposer qu'ils y sont allés avec des flûtes ou des pipeaux. Par contre, il y a une autre explication que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps. C'est un curé au 19e siècle, un curé de Mormon, donc qui en avait assez de voir ses paroissiens hommes qui quittaient l'église chaque fois qu'il montait en chaire pour faire son sermon. Alors un jour, il est allé en chaire avec un petit pipeau dans sa poche. Et quand les hommes sont sortis, il s'est mis à jouer du fifre. Donc en entendant ça, tous les hommes sont revenus en courant, en se demandant ce qui se passait. Et en patois, il a dit « Grandiou, imodon, imodon à votre parole-là, et il rentre au brou de fifreau. » Ce qui veut dire « Mon Dieu, il s'enfuit à votre parole et il rentre au bruit d'un fifre. » C'est peut-être mieux qu'on les appelle les fifres, autrement ça serait les pipeaux ou les flûteaux.
C'est extraordinaire parce que Michel et Annie, vous êtes une véritable encyclopédie de ce lieu. Et on invite évidemment les gens à venir vous voir, vous rencontrer, parce que l'idée c'est d'en garder aussi sous le pied pour les visiteurs. On arrive un peu vers la fin de cette causerie et cette chapelle est vraiment la cerise sur le gâteau de ce magnifique pays mornantais. Elle incarne autant l'ancrage historique et religieux que la richesse des espaces naturels et agricoles qui relient toutes les communes du pays mornantais. Et nous sommes ravis d'avoir échangé avec vous et de mieux connaître ce lieu enchanté, sorte de centre de gravité symbolique du pays mornantais.
On a une petite tradition dans cette causerie, c'est qu'on aime bien laisser le mot de la fin à nos interlocuteurs, à nos invités. C'est vous donc qui avez le mot de la fin, le dernier mot.
C'est toujours un très grand plaisir d'échanger ici. Et j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir utiliser ce qu'on vous a dit. En tout cas, on est très content d'accueillir.
Bien, j'espère que la chapelle et Saint et Notre-Dame de Bonne Garde continueront à veiller encore pendant longtemps sur le village de Saint-Laurent-d'Agny et par extension sur tous les villages de la communauté mormantaise.
Cette causerie a été réalisée par la Compagnie des Histoires en Musique en partenariat avec la commune de Saint-Laurent-d'Agny et la communauté de communes du pays mornantais.